Donc, on va, le Seigneur a une espèce de plan ce matin pour nous, parce que aujourd'hui j'aimerais qu'on mette la base pour les prédications qui s'en viennent. Vous savez, dans les dernières années, j'ai fait quelques fois à plusieurs reprises, vous comprendrez que c'est arrivé plus qu'une fois, mais pas tant que ça, j'ai fait plusieurs prédications sur des termes qui sont parfois un peu chauds. L'idée de dire, j'ai parlé un peu sur la sexualité, j'ai parlé aussi sur certaines thématiques de vie d'église, de communion fraternelle. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut trouver ces thèmes-là sur Internet dans des messages pour pouvoir le partager à d'autres? Et comme ce n'était pas encore le cas, cet été, on va passer à travers certaines de ces doctrines-là, de pouvoir parler ensemble de vraiment qu'est-ce que la Bible enseigne sur ces différents sujets qui sont parfois un peu polémiques aujourd'hui. Parce que la Bible est quand même claire, même si on la regarde en surface. Sauf que parfois, c'est pas assez pour le cœur humain de voir la vérité en pleine face. On doit essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu me demande ça? Et ce matin, j'aimerais apporter une base importante qui est l'Évangile que Jésus prêche. L'Évangile pour lequel Jésus est mort, sa mort, sa résurrection sur la croix, est efficace pour nous, pas parce qu'on est intelligent et on le comprend, mais bien parce que c'est une puissance que Dieu fait. Et par cette puissance-là, Jésus confond les sages, brise la sagesse humaine et établit une base qui est beaucoup plus efficace que nous. Et l'objectif ce matin, c'est vraiment de prendre un temps pour faire un beau clin d'œil sur à quel point Dieu est sage parce qu'il ne base pas son évangile sur la sagesse humaine, mais bien sur lui-même. Et tout ce qui a été partagé ce matin, qui nous parle un peu de cette grâce-là qu'on a, cette unité à laquelle on est appelé, eh bien, on trouve la force on trouve la force de ces déclarations-là dans le don de Dieu pour l'Esprit. Parce que dans le chapitre juste avant qu'on va lire tantôt, dans Jean chapitre 16, Jésus nous dit « Il est préférable que je m'en aille, car je vous enverrai l'Esprit. » Et là, moi, dans ma stratégie humaine, dans ma sagesse humaine, je me dis « Jésus, il me semble que ce serait bien plus simple si tu étais encore là et que tout le monde te voyait là. » Il me semble que ce serait évident. Tu étais là, tout le monde qui va te voir est guéri, tout le monde, personne ne se questionne si tu as un don, peu importe. Tu es là, tu as les clous, tu as les trous dans tes mains. Il me semble, Seigneur, ce serait plus simple. Mais ça, c'est ma sagesse humaine. Et là, je vais même le dire autrement, ça, c'est ma stupidité humaine qui ne comprend pas le don que Dieu nous donne lorsqu'il dit « Je vous enverrai l'Esprit ». Et c'est ce que j'aimerais qu'on découvre ensemble ce matin, qui va être la base d'absolument tout ce qu'on va construire cet été. Parce que, vous savez, dans les dernières années, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup plus de temps pour étudier la parole de Dieu, approfondir des choses. Et puis là, des fois, j'arrive à un point de me dire, hey, ça fait donc bien du sens. C'est donc bien profond, c'est donc bien excellent. Ça dépasse l'entendement. Puis là, je me dis, t'es donc bien intelligent, Marco. Tu comprends ça, toi? Hein? L'orgueil frappe à la porte. Et après avoir passé un certain temps à flatter mon nombril, le Seigneur m'a ramené à la preuve, au bercail, lorsque je lisais 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens 2, je vous invite à tourner, ça va être notre texte de base. Et ce matin, je vous montre le petit plan. On va regarder ensemble une petite introduction. On va regarder certaines mises en garde que Dieu nous donne de rester ensemble. Et après ça, on va regarder comment Dieu a un appel supérieur pour nos vies. Et après ça, on va essayer d'être très pratique. Parce que c'est bien beau avoir plein de connaissances, mais ça change quoi dans nos vies? Donc, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Et on va le lire au complet aujourd'hui, mais j'aimerais commencer en lisant les 5 premiers versets. Donc, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, réunis ensemble en ton nom, on veut prendre un temps pour se rappeler à quel point tu es sage. À quel point, Seigneur, ta sagesse confond notre intelligence. À quel point tu dépasses tout notre entendement. Et à quel point, Seigneur, tu nous bénis d'une bénédiction de laquelle on n'est pas digne. Et Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu parles par ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que ce n'est pas à moi, Seigneur, de convaincre. C'est à toi de parler, Seigneur. Ce n'est pas par la sagesse du langage ou par des stratégies préfabriquées afin d'annoncer ton évangile de la meilleure des façons qu'on va pouvoir amener des gens à croire en toi, à te suivre, à se repentir de leurs péchés. Mais Seigneur, comme tu vas nous le montrer ce matin par ta parole, c'est toi qui fais tout le travail. Et c'est nous, Seigneur, qui peut en bénéficier. C'est nous qui peut vivre une bénédiction. Et Seigneur, on veut t'en dire merci. On veut te demander, Seigneur, de nous parler par ta parole. Seigneur, on veut te demander de nous fortifier et de nous encourager. Et Seigneur, vraiment, de pouvoir être un témoignage puissant ici à l'Église et dans chacune de nos vies, de l'impact que tu as sur nous. Seigneur, à quel point tu es grand, glorieux, tout-puissant et en contrôle, peu importe ce qui se passe. Merci, Seigneur Jésus, de prendre bien soin de nous. Et ces choses, on les a priées pour ta gloire. Amen. Donc, on voit ensemble ce matin cette idée-là de supériorité de l'esprit, non, afin que l'Évangile fût fondé au verset 5, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, ensemble ce matin, on va regarder des choses importantes. Simplement, on vit dans un monde sage, ou du moins qui se croit sage, et on s'est habitué ensemble à vivre dans un monde qui parle, qui s'exprime et qui explique les choses d'une certaine façon. Et un des défis qu'on a dans nos vies personnelles, c'est que vous êtes probablement comme moi, si vous avez vécu dans les 100 dernières années, à entendre des vérités communiquées avec la façon scientifique. Ce qui veut dire introduction, point 1, développement, conclusion, point 2, développement, conclusion, point 3, développement, conclusion, et on continue. Ça, c'est la méthode scientifique de partager des réalités. Voici mon point, voici ma preuve, le développement et une conclusion. OK? Et ça, c'est la façon que les gens communiquent de façon efficace aujourd'hui. Et savez-vous, c'est quoi un des défis qu'on a avec la parole de Dieu? C'est que Dieu ne communique pas comme ça. Dieu communique de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus impliquante pour nous. Si c'est un mot que je peux utiliser, si c'est un mot qui existe, sinon, c'est pas grave. Ensemble, on va regarder comment Dieu utilise des récits bibliques. Dieu utilise des psaumes. Dieu utilise un langage qui n'est pas le nôtre. Vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu quelqu'un qui vit une peine d'amour. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui a sa bouée dans ses entrailles. Vous ne comprendrez pas non plus l'idée d'anxiété. Mais on voit que Jésus a sué des grumeaux de sang. Est-ce que la Bible parle d'anxiété? Oh oui. Est-ce que la Bible utilise le terme scientifique? Non. Et on voit comment ce défi-là qu'on a peut nous amener parfois à regarder ailleurs que dans la parole de Dieu. Parce qu'on se dit, la Bible n'en parle pas nécessairement de ça. Quand l'œil aiguisé, guidé par l'Esprit Saint, va voir à travers les histoires et les récits bibliques les forces, les failles et les faiblesses des grands hommes de Dieu, et va être capable de dire, oui, OK, Seigneur, ici, je pense que ce héros de la foi-là, comme David, vit une anxiété. Il est en train d'avoir le cœur brisé. Il est en train de vivre quelque chose. Et là, il pleure sur sa couche. Il a les entrailles se tordent. Là, on parle d'une émotion forte. On comprend l'image. Hein? Celui qui a déjà vécu de la tristesse au point de sentir que ça vous tiraille en dedans comprend très bien ce que David est en train de vivre. Mais toutes ces choses-là viennent un peu être un défi pour nous parce qu'on est habitué, en bon québécois, de l'avoir facile. Hein, point 1, introduction, développement, conclusion. Et là, c'est difficile parfois de lire et de trouver dans la parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais parler ce matin, c'est vraiment cette idée-là de dire que parce qu'on est habitué à ça, c'est ce qu'on recherche dans la parole de Dieu. Et on a cette idée-là que c'est ça la façon sage et intelligente de partager la parole de Dieu. Et donc, on utilise des techniques et on se fait une force, on se forme nous-mêmes à bien annoncer les choses, alors que c'est peut-être un piège. Et j'aimerais prendre un temps, rapidement, pour ramener un peu les pendules à l'heure. La puissance de l'Évangile dans ma vie et dans ta vie ne vient pas d'une grande connaissance des Écritures. Même si peut-être certains en ont, certains plus que moi. Mais mon salut ne vient pas de ma grande connaissance des Écritures. Mon salut vient par la foi seule en l'œuvre de Christ, disponible par l'Esprit Saint qui a éclairé ma stupidité et m'a permis de voir et de comprendre et de capter l'amour de Dieu et son œuvre parfaite. Donc, si on établit cette base-là, que c'est vraiment par l'Esprit qu'on est capable de comprendre, pas parce qu'on est intelligent. Ce défi-là qu'on a, spirituel, de vraiment faire une différence dans la façon de communiquer, perd un peu sa force. Donc, on avait ce défi-là du langage scientifique. Et le dernier petit point que je peux avoir en introduction pour vous, c'est que parfois, à cause de cette habitude-là qu'on a, il y a une chose qui s'installe dans notre vie, c'est le doute. Le doute s'installe parce qu'on se dit, est-ce que la Bible est vraiment efficace pour traiter de tous les problèmes? Est-ce que la Bible est suffisante? Ou est-ce que j'ai besoin d'ajouter autre chose? Est-ce que j'ai besoin de mettre mon petit grain de sel et ma grande science, ma grande intelligence pour compléter ce qui est incomplet dans la parole de Dieu? Parfois, c'est là où le doute s'installe. Parce qu'on est tellement habitué. Et j'aimerais vous dire que non, on n'a pas besoin de rajouter notre petit grain de sel, mais on a besoin de combattre et de s'appuyer sur ce que Dieu nous donne clairement comme conseil et comme outil afin d'arriver à pleinement vivre cette grâce-là disponible en Jésus. Et j'aimerais vous dire que toutes ces choses qu'on va parler se trouvent, encore une fois, dans notre relation avec l'Esprit-Saint. Parce que vous allez voir ensemble, c'est l'Esprit-Saint qui est celui qui nous donne confiance, paix et amour pour les autres. Donc, les différentes demandes de Dieu semblent déraisonnables pour celui qui se bat avec ses propres armes. OK? Et je pense que dans notre nature charnelle, on voit certaines des choses que Dieu nous demande, de nous abstenir, et parfois ça a l'air énorme. Mais pourtant, celui qui combat avec les armes de Dieu et qui croit vraiment dans son cœur qu'elles sont efficaces et utiles et qui s'y adonne, eh bien, elles sont parfaitement raisonnables. Elles sont même agréables et on comprend rapidement que Dieu nous les a donnés afin de nous protéger de nous-mêmes. Et là, on a vraiment cette idée-là, cette puissante fondation qui est l'Évangile sur laquelle on peut se fier, on peut se battre, on peut même être inébranlable en étant ancré dans la parole de Dieu. Tout le monde me suit? OK. Donc, le premier point que j'aimerais amener, en fait, sera le suivant. Il y a certaines mises en garde dans la parole de Dieu qui peuvent avoir l'air étranges. Ben, en fait, pour nous aujourd'hui, ça va être peut-être différent, mais il y a l'idée de certaines, les mises en garde de la parole de Dieu sont les suivantes. La première, c'est de se poser les mauvaises questions. Et je trouve que l'Ancien Testament a un texte exceptionnel pour nous parler de ça. Je vous invite à tourner, pour ceux qui ont la Bible, dans Deutéronome 12. Et ceux qui étaient avec moi lors du dernier, des dernières thématiques, on l'a lu ensemble, ce texte qui dit la chose suivante. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées, que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au jeu en les imitant après qu'elles seront été détruites. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de te dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire pareil. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant des abominations et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles. » Donc, pourquoi je vous partage ce verset-là ce matin, c'est que en commençant à se questionner sur comment tout le monde fait, comment ils font eux, qu'est-ce qu'il y a de différent, et en se basant sur autre chose que la parole de Dieu, on peut se ramasser à faire à peu près n'importe quoi. Et dans ce texte, il y en a un autre qui vient tout de suite après, dans Deutéronome 18, qui nous parle de « ne vous mettez pas en alliance avec les non-croyants ». Et ces deux mises en garde-là, je vous les partage ce matin avant qu'on aille parler de l'Esprit-Saint ensemble, parce que l'impossibilité d'aller ensemble dans un couple ou dans des relations de tous les jours, d'amitié, d'être incapable avec nos amis ou avec notre épouse, notre époux, d'aller chercher à la fontaine infinie de grâce de Dieu, de ne pas pouvoir faire ça avec eux. On part avec deux prises. Vous comprenez? S'il y en a un qui va constamment s'abreuver de tout, plein d'autres choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui va s'abreuver et qui ne va jamais à la parole de Dieu, avec lesquelles on ne peut pas prier, on ne peut pas utiliser les instruments que Dieu nous donne, qui sont la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Si on n'est pas capable d'apporter, de passer du temps ensemble dans la prière, de passer du temps ensemble à se questionner sur ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, et que là j'essaie de me tenir debout seul dans mes relations, ce ne sera pas facile. Et Dieu nous met en garde. À deux reprises, dans Deutéronome 12, Deutéronome 18, et Paul reprend la même idée dans 2 Corinthiens 6. Il nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et il dit même un petit peu plus loin, au verset 17, il dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. » Regardez au verset 18, « Je serai pour vous un père. » Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, Paul ici nous encourage à ne pas faire d'alliance, ne pas se mettre sous un joug étranger, ne pas chercher notre propre sagesse, ne pas se questionner sur comment les autres font. Mais vraiment, il nous appelle à vraiment être centrés sur ce que Dieu nous donne, dans sa parole, qui est pas disponible par la sagesse, mais bien disponible par l'Esprit-Saint que Dieu met en chacun de nous. Et le dernier avertissement qu'on a souvent dans la parole de Dieu, c'est en lien avec notre relation avec l'Esprit-Saint. Vous savez, parce que si vous prenez le temps de parler avec des grands théologiens puis de lire des livres, vous allez voir et vous allez comprendre rapidement que c'est l'Esprit-Saint qui nous convainc de péché, de repentance et de salut. C'est l'Esprit-Saint qui va travailler dans chacun de nos cœurs afin qu'on soit capable de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu. Et c'est aussi l'Esprit-Saint qui va nous diriger alors qu'on sera questionné et que ce sera des moments difficiles. C'est par l'Esprit-Saint de Dieu qu'on peut avoir pleinement confiance lorsque tout notre monde est ébranlé. Et on peut voir ça. On a plusieurs appels à comprendre cette relation-là qu'on a avec l'Esprit-Saint, mais on a un dernier avertissement qui est celui de négliger notre relation avec l'Esprit-Saint, qui est de négliger, et là, le verset le plus connu probablement, c'est dans Éphésiens 4:30, qui nous dit « N'attristez pas l'Esprit ». On a d'autres versets qui nous disent « N'éteignez pas l'Esprit ». On dit aussi « Soyez soumis à l'Esprit ». Et toutes ces demandes-là sont des avertissements pour nous, un appel à maintenir notre relation avec l'Esprit-Saint à son meilleur, à ne pas me fier sur ma propre intelligence. Et Salomon nous avertit dans Proverbes, hein? Ne te confie pas dans ta sagesse, mais fais confiance à l'Éternel. Donc, négliger notre relation avec Dieu par l'Esprit-Saint, c'est s'aventurer dans un désert sans eau et se questionner pourquoi j'ai soif. C'est essayer de traverser le Sahara avec une gourde que je n'ai pas remplie, mais j'ai la gourde. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais qu'on mette en place une réalité. Parce que avant qu'on rentre ensemble dans des discussions sur des thèmes qui peuvent être un peu croustillants, sur lesquels on peut entrer en conflit, et j'ai passé du temps dans des camps et je me faisais bombarder de questions par des jeunes croyants qui voulaient qu'on parle de doctrines super compliquées. Et une des choses que je me suis amusé à faire toute la semaine, c'est leur demander des ancrages. Et pour ceux qui sont moins habitués au langage chrétien, un ancrage, c'est où est-ce que tu trouves ça dans la Bible? Je veux pas que tu me lises la convention de n'importe quelle gang. Je veux pas que tu me lises un livre de théologie. Je veux un verset, je veux un passage qui valide ta croyance. Et à leur grande surprise, ils n'en avaient pas. Et c'est là que je me suis amusé toute la semaine quand ils venaient avec des trucs. « Ah, c'est quoi ton ancrage? » Et ce mot-là, ils vont s'en souvenir. Mais la réalité, c'est que toute chose que je crois, j'ai le droit de me questionner, et j'ai le devoir, en fait, de me questionner de où ça vient. Et j'ai été surpris qu'est-ce que la plupart des croyants trouvent leur théologie dans des chansons. Parce que il y a un air, et là, on chante. Et là, c'est facile de s'en retenir. Puis dans l'auto, c'est bien rare que tu commences à réciter des psaumes. Bien, il y a une petite chanson qui part. Et puis là, on écoute ça en travaillant. Et là, on s'habitue. Et c'est correct si on est dans des vieux cantiques écrits par des théologiens avec une profondeur théologique. Mais si toutes nos chansons sont « Jésus, je t'aime, bénis-moi », ouf, bien, ça va être notre fondation. Est-ce que c'est une fondation efficace et profonde? C'est une fondation qui est vraie, mais est-ce que ça va m'empêcher de m'écrouler quand le vent souffle et que la maison tremble? Je ne sais pas. Voici pourquoi négliger les relations avec le Saint-Esprit, négliger nos réalités qu'on vit, viennent nous rendre chambranlants, et c'est la raison pour laquelle je commence avec les avertissements. Pourquoi? Parce que je crois que maintenant qu'on est mis en garde, voici ce qu'on peut vivre. On peut vivre un appel supérieur. L'appel de la vie chrétienne trouve sa force non dans une loi ou un code de vie, mais dans une relation vivante et vraie avec Dieu. Et là, une relation, il y a quelque chose d'important. C'est que ce n'est pas « one way ». Excusez mon anglicisme. Ça ne va pas juste d'un côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand je parle, normalement, la personne me répond. Sinon, j'ai pas grand relation. OK? Et dans cette réalité-là, on est appelé à vivre une relation avec Dieu. Et là, comment est-ce que nous, on parle à Dieu? Ça, il y a beaucoup de gens qui sont très efficaces. Hein? Comment est-ce que nous, on parle à Dieu? C'est par la prière, par les actions de grâce, par les supplications, par les psaumes et les louanges. Là, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui parlons à Dieu. On s'exprime. Et la Bible dit même que parfois, on ne sait pas trop quoi demander. Et qui nous vient en aide? L'Esprit Saint, comme par un soupir inexprimable, vient pallier à nos faiblesses parce que trop souvent, je ne sais pas quoi ou comment demander. Ce côté-là est correct. Maintenant, comment Dieu nous parle? Et là, je sais que je suis dans une église baptiste, donc ce que je vais dire, je ne me ferai pas lancer de roche. Comment est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que, en tant qu'être humain, on peut trouver des paroles de Dieu autres que dans sa parole? Et c'est bon de se le demander. Et là, je suis pas en train de dire, est-ce que Dieu n'utilise jamais un autre moyen que ça? Non, Dieu peut utiliser absolument tout ce qu'il veut. Des témoignages de gens qui ont des rêves, que Dieu leur donne clairement le plan de l'Évangile, qui se convertissent et qui après prennent une Bible et réalisent à quel point Dieu a été bon avec eux, sont nombreux. Dieu peut utiliser absolument tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est la norme? Non. Est-ce que chaque personne ici devrait s'attendre à avoir une révélation spéciale? Non. Est-ce que chaque personne est responsable de prendre la parole de Dieu, de la lire et de laisser Dieu lui parler? Et comment est-ce que Dieu lui parle à travers la lecture de la parole de Dieu? Par l'Esprit Saint, qui fait que je peux lire un passage et ça va me parler de quelque chose. Et ma femme va lire exactement le même passage et elle va comprendre d'autres choses. Et la richesse, c'est qu'on peut en discuter. Et même, dépendant de nos personnalités, on peut s'astiner. Hein? Et on peut grandir dans notre foi. Et ça, ça fait partie des bontés de Dieu. C'est que Dieu va nous parler par sa parole, je vous dirais, 99% du temps. Et le 1%, c'est quand on est au travail, quand on est en train de partager l'Évangile, quand on est en train... Et là, soudainement, un texte que j'ai lu une fois en 1996 me revient. Et là, c'est ça que je dois dire. J'en suis convaincu. Et là, en partageant cette réalité-là, cette vérité-là, l'Esprit Saint agit et cette personne-là comprend. Et là, je vis vraiment quelque chose de spécial. Dieu vient de m'utiliser. Dieu vient de parler à travers moi. Je suis un canal de la grâce de Dieu par l'Esprit Saint. Et là, tu utilises autre chose. Mais je vous dirais que dans notre vie chrétienne normale, je vais même le dire comme ça, plate, Dieu parle par la parole de Dieu. Et c'est efficace et c'est tellement bon. Pourquoi? Parce que l'appel supérieur qu'on a, c'est la puissance de l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de tous. » L'Évangile est une puissance. J'aimerais vous dire qu'il aurait pu utiliser le mot « c'est la sagesse de Dieu », mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas fondé sur la sagesse. L'Évangile est fondé sur la puissance de Dieu. Est-ce que j'ai un amen à ça? Amen. Avez-vous un ancrage? Oh, je vous ai tout pogné. Mais non. Oui, on a des ancrages. On va les lire ensemble. Mais c'est vraiment cette idée-là de dire « on doit être prêt » en tant qu'Église, et là, je vais le dire, en tant qu'Église baptiste qui se dit fondée sur la parole, que c'est l'Esprit-Saint qui donne la puissance à la parole de Dieu. Que c'est l'Esprit-Saint qui va nous montrer comment l'utiliser. C'est comme donner un épée à double tranchant à un enfant de 5 ans. Je viens de tout nous comparer à un enfant de 5 ans. Personne n'a réagi, c'est bon. Mais est-ce que c'est safe? Ben, Non. OK? Normalement, quand on veut apprendre à quelqu'un à utiliser une épée, on lui en donne une en bois avant. Là, on lui montre comment, et après ça, on lui montre comment s'en, en prendre soin. Et ensuite, quand il va avoir maîtrisé les bases, là, on va lui donner pour qu'il s'habitue au poids, etc. La parole de Dieu, Hébreux nous dit, est semblable à une épée à deux tranchants, séparant jusqu'à moelle et joint l'âme et l'esprit. Donc, la parole de Dieu est vraiment notre base. Et la puissance de l'Évangile se trouve dans l'interaction du Saint-Esprit avec votre cœur. Et là, le cœur dans la parole de Dieu, c'est vraiment pas cette idée-là d'émotion. Quand vous avez le cœur, et ça, c'est important de le comprendre, quand vous lisez l'Ancien Testament et qu'il dit « cache la parole dans ton cœur », le cœur, c'est ton intelligence. Et quand ça dit « je te sens dans mes entrailles », là, c'est tes émotions. Donc, quand la parole de Dieu nous dit « cache la parole dans ton cœur », ça veut dire « cache-la dans ta tête, dans tout ce que tu es, afin que quand le doute vient, quand l'ennemi t'attaque, tu sais que Dieu est bon. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour te donner la vie et qu'il t'a donné l'Esprit Saint qui te garde, te scelle et te dirige. Ça vient par exemple avec un défi, qui est le défi d'avoir une lutte constante avec sa propre chair. Et ça, on voit ça dans Galates. Galates 5, 16, 17 nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Lire ça en 2026, ça prend du courage. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qui peut convaincre un homme ou une femme pécheur de ne pas faire ce qu'il veut? Personne. J'ai de la misère à convaincre mes enfants. Puis, je pense que tous les parents ici vivent la même chose. Essaye de ne pas faire faire à ton enfant ce qu'il veut. Ça prend du courage, ça prend de la patience. Et tu te répètes souvent. Et les premières fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire ce qu'on veut? C'est l'esprit. L'esprit en nous, on va marcher par l'esprit et là, on ne fera pas ce qu'on veut. Romains 12, 2 nous dit un peu la même chose. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Jean nous dit la même chose dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et pour citer encore 2 Corinthiens, « Celui qui suit, je serai pour lui un père, il sera pour moi des fils et des filles. » Et donc, on arrive vraiment dans cette réalité-là où on est en lutte constante avec nous-mêmes. Et comment être victorieux dans cette réalité-là? C'est que l'Esprit de Dieu nous sonde. Et il y a ce que certains appellent les outils de grâce qui sont communément appelés la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle et le repas du Seigneur. Ce sont les outils que Dieu nous donne afin qu'on soit solide face à toutes les tentations et toutes les attaques du monde. Et faire confiance à tous ces outils-là, c'est comprendre que Dieu agit à travers eux. Donc, Dieu n'agira pas à travers mon émotion, même si parfois, l'émotion, Dieu les a créées et va les utiliser. Dieu va agir en nous quand l'Esprit nous permet, à travers notre lecture des Écritures, de regarder mon propre cœur. La parole de Dieu va mettre à nu mon cœur, mon âme, mes pensées. Et l'homme naturel, parce que c'est ce qu'on va lire ensemble, l'homme naturel ne peut pas accepter cette réalité-là, de se voir lui-même. On fuit ça comme la peste. Mais l'Esprit Saint peut nous rendre humbles afin qu'on soit capable de voir et maintenant de travailler avec lui dans la parole de Dieu et dans la prière, dans la confession. Est-ce que c'est facile? Non. C'est terrifiant. C'est terrifiant d'aller au pied de la croix devant un Dieu trois fois saint qui m'aime et d'être devant Jésus qui a été percé pour moi et de savoir qu'à tous les jours, je vais agir comme un insensé. Je vais me détourner de la parole de Dieu. Je vais choisir de pécher dans mon cœur, dans ma tête. Je vais traiter mon voisin d'imbécile. Chacun sa lutte. Mais à tous ces moments-là, l'Esprit me sonde. Et l'Esprit me rappelle. Souviens-toi, Marco, sans Christ, tu n'es rien. Souviens-toi. Et là, quand je vais partager l'Évangile, hein, on arrive au côté pratique. Quand je vais partager l'Évangile, souviens-toi, Marco, tes paroles peuvent même nuire à l'Esprit Saint. Parce que toi, tu veux dire telle chose, là. Mais moi, pour cette personne-là, j'ai un autre message. Comment est-ce que on peut être capable de vivre cette réalité-là que je vis et que je suis appelé à prendre mes responsabilités en tant que chrétien, mais que toute la gloire appartient à Dieu et qu'il lui-même fait le travail à travers l'Esprit. Parce que c'est ça la lutte. C'est ça la lutte qu'on a à vivre chacun d'entre nous. C'est qu'à chaque jour, je vais aller dans la parole de Dieu et je vais essayer de laisser Dieu me parler. Et il y a des jours où c'est soit Dieu ne parle pas fort ou pas l'impression qu'il me parle bien, bien. Et là, de me dire, non, c'est la bonne chose à faire. Pas juste c'est la bonne chose à faire, c'est ce que Dieu me demande. Aujourd'hui, c'est comme prendre un petit café avec l'Éternel. Puis finalement, il ne s'est rien passé, mais j'ai eu un bon temps. J'apprends à mieux connaître l'Éternel. Hein? C'est comme ouvrir la parole de Dieu, et là, dans votre temps de culte personnel, c'est des généalogies. Ah ben, je vais lire la journée de demain d'abord. Non! Soyez pas surpris que parfois, il y a des moments où ça va être moins excitant. C'est normal. Tous ceux et celles qui sont en couple, mariés, est-ce que c'est excitant, malade mentale, tous les jours? Non. En tout cas, si c'est ça pour vous autres, vous allez être surpris bientôt. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué, des moments où c'est plus difficile. Et là, Dieu, lui, ne se fatigue pas. Dieu n'est pas comme ça. Mais, nous, on l'est. Et parfois, l'Esprit sait que je ne suis pas prêt à la prochaine étape. Dieu est conscient que peut-être, t'as de quoi travailler, mon homme. Et c'est la raison pour laquelle, c'est peut-être un petit peu moins excitant. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on mette la base que je trouve importante. De laisser le travail de l'Esprit Saint à l'Esprit Saint. Parce que, vous savez, Paul prend le temps de mettre des bases solides. Et on peut se poser la question, c'est quoi le travail de l'Esprit? Comment est-ce que l'Esprit Saint est efficace et se manifeste dans la vie du croyant? Si vous allez dans certaines églises, on va dire que c'est par des miracles. Il faut que tu fasses des miracles, il faut que tu parles en langue, il faut que tu sentes quelque chose, une manifestation physique ou mystique qui peut-être fait que tu vas tomber à terre pour faire le bacon. On ne le sait pas. Est-ce que c'est vraiment ça, l'Esprit Saint? Parce que quelqu'un qui veut se trouver des ancrages, le livre des Actes est rempli de moments où l'Esprit-Saint agit de façon spéciale. C'est quoi le travail de l'Esprit-Saint? Il y a un côté pratique qu'on doit avoir. C'est que, si vous regardez dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit se manifeste toujours avec un but. L'Esprit de Dieu a fortifié des guerriers, des artisans, des chefs. La présence de l'Esprit était le sceau de la volonté de Dieu pour le peuple. Donc, on voit que Dieu a parlé à Abraham. Est-ce qu'Abraham était parfait? Non, je vous dirais même qu'il n'était pas bien bon. Dieu a parlé à plusieurs hommes de Dieu et c'est l'Esprit qui venait sceller la chose, qui venait sceller l'appel. Et là, on voit comment Dieu, à travers Moïse, a utilisé une façon encore plus spéciale. Il s'est manifesté, il y avait la nuée, il y avait la colonne de feu. Et là, Dieu a dit, comme j'ai été avec Moïse, ben, je ne serai plus avec personne d'autre. Dieu communiquait directement avec Moïse. Mais Dieu a scellé Josué afin de conquérir les nations. Il a été présent à travers les juges. Et si vous lisez le livre des juges, vous voyez comment Dieu a utilisé des hommes très imparfaits pour garder son peuple. Et Dieu a travaillé aussi à travers les prophètes. On voit Samuel, on voit les rois, on voit David, on voit chaque prophète. Et toujours un but. Dieu avait toujours un but pour chaque prophète. Dieu avait toujours un objectif. Il utilisait les hommes prêts à le servir. Et parfois même des hommes pas prêts à le servir. Si vous lisez l'histoire de Jonas, pas fort le gars. Dieu utilisait des hommes pour accomplir son but. Quel est le but de l'Esprit-Saint dans ta vie? Parce que si tu n'as pas de but, c'est un moment de se questionner. Parce que l'Esprit-Saint et Dieu n'utilisent jamais rien pour rien. Dieu envoie son esprit pour un but. Et on a tous un but commun qui est de glorifier le Seigneur Jésus par nos vies. L'Esprit-Saint commence quelque chose à notre salut et même avant notre salut. On voit dans Jean 16 que Jésus enseigne qu'il va envoyer l'Esprit après être allé au Père. Dieu, Jésus envoie l'Esprit-Saint afin qu'on soit capable de comprendre le salut, la croix, la résurrection. Et là, Jésus nous confie le mandat de continuer l'Église par l'Esprit-Saint. Et là, on a là ces moments-là où les disciples manifestaient la présence de Dieu. Ils venaient valider que comme le Maître Jésus a agi et a vécu, eux aussi avaient la même puissance et leur message était autant efficace. Imaginez dire que Jésus est ressuscité, puis il n'y a personne qui guérit, il n'y a personne, vous ne faites aucun des miracles que Jésus a fait. Partirait pas quelque chose bien. Parce que Jésus, c'était le plan de Dieu complet, parfait. C'était Dieu fait chair qui donnait la vie, qui sondait le cœur, qui faisait toutes les choses. Et là maintenant, Dieu dit, Jésus nous enseigne que ça va être aux disciples, à ceux qui suivent Jésus. Et on a une manifestation autant puissante que ça, ça n'est plus jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. OK? On a vraiment un boost. Dieu a parti à travers les apôtres, l'Église, avec un témoignage puissant qui venait valider les œuvres de Jésus. Et quand on lit les lettres de Paul, rapidement on réalise qu'il y a un ordre qui s'installe. Et là, quand vous lisez les premières lettres, il y a plein de confusion sur les manifestations de l'Esprit. Si vous lisez les lettres aux Corinthiens, si vous lisez certaines choses avec Galates, où au lieu de chercher vraiment à trouver la parole de Jésus dans la Bible, et eux avaient seulement l'Ancien Testament, donc au lieu de creuser afin de voir Jésus et l'œuvre de Dieu, eh bien, ils retournaient à la loi. Et là, Paul remet les pendules à l'heure et dit, non, vous avez été sauvés par grâce. Continuez par grâce. Vous avez été scellés par l'Esprit-Saint. Continuez par l'Esprit-Saint. Et là, on voit que rapidement, il y a un ordre qui s'installe. Et plus vous lisez des lettres que Paul a écrites dans sa vieillesse, moins on entend parler de toutes ces manifestations-là. Car l'Esprit parle à travers la parole de Dieu.
On n'a plus besoin d'avoir toutes ces manifestations-là, tout le temps, en tout moment, pour valider un message. On a les témoignages, on a la parole de Dieu, et on est capable vraiment de vivre pleinement l'amour et la grâce de Dieu. Ce qui devient intéressant, c'est que Paul nous parle de l'ordre dans l'Église. Et là, on pourrait aller loin. Okay? On pourrait prendre le temps de discuter de toutes ces choses-là, mais il y a une chose qui est bon pour nous de ce côté-là, pratique, que j'aimerais souligner avant de conclure ensemble. C'est qu'il y a une chose qu'on sait, c'est que l'Esprit-Saint, à chaque croyant, nous donne un don. Chacun d'entre nous, dans cette salle ici, à notre salut, Dieu nous donne un don. Si je ne connais pas mon don, je ne peux pas servir, est-ce que je vais grandir? Est-ce que je suis utile et efficace pour mon maître? C'est une bonne question à se poser. Quel est mon don spirituel? Il y en a parfois qui pensent qu'ils n'en ont pas, qui pensent que c'est réservé aux pasteurs ou aux évangélistes. Non. La Bible nous enseigne que chaque chrétien a un don. Parabole des talents de Jésus, certains donnaient 10, certains 5, certains 1. Mais fais fructifier ton don. Utilise-le, c'est comme ça que tu vas être pleinement satisfait dans ta relation avec Dieu. Et on voit vraiment qu'il y a cette idée-là de, on a tous un don et pas des manifestations. On voit vraiment que Paul exprime la puissance de l'Évangile comme étant quelque chose de visible dans le salut, et il met l'emphase sur l'Esprit-Saint qui opère un changement interne en nous parlant des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, dans Galates 5, 22, ces fruits-là devraient être visibles dans votre vie, devraient avoir eu un changement. Et vous devriez trouver votre don. Vous devriez être capable de dire, voici comment Dieu m'appelle à le servir dans l'Église. Voici comment Dieu m'appelle à vivre pour lui. C'est clair. Et parfois, on est dans des moments dans notre vie où on se dit, me semble que je stagne puis que j'ai pas avancé beaucoup. Et puis là, si vous prenez le temps d'aller discuter peut-être avec un pasteur ou un ami, puis là, il va vous dire, mais c'est quoi ton don? Si c'est votre réponse, mais il faut questionner. Seigneur, c'est quoi mon don? Et petite publicité, sur le site Internet de l'Église, grâce à certaines personnes, est disponible un test pour vous aider à aiguillonner qu'est-ce que peut-être Dieu vous appelle. Je fais fin de la pause publicitaire, mais c'est important de trouver votre don, parce que c'est ça l'étape. L'Esprit commence par vous convaincre de péché. Et là, je vous ai fait une belle liste, OK? L'Esprit commence par nous convaincre de notre besoin. L'Esprit nous motive à aller vers l'Éternel parce qu'on a peur, puis on ne sait pas si ça vaut la peine. L'Esprit nous dispose à accepter ces choses-là. Et là, moi, je vais m'accrocher par les outils, la parole de Dieu, la prière et le jeûne. Je vais m'accrocher à la vérité. Je vais donner ma vie à Dieu. Est-ce que je peux le faire sans la manifestation de l'Esprit? Dépendant à qui vous parlez, je crois que la parole de Dieu est claire. C'est l'Esprit qui travaille en nous afin de nous convaincre. Ensuite, l'Esprit va produire du fruit en moi. L'Esprit me donne un don. Je mets mon don en action. C'est là que je vais grandir. Et c'est normalement, c'est là qu'on est. OK? Dans l'Église, on devrait tout être là. Je mets en pratique mon don. Je le mets en action. J'utilise toujours les outils de Dieu. La parole de Dieu, la prière et le jeûne. Je me questionne, je cherche sa face. Et là, je trouve mon don. Je ne l'ai pas marqué, là, mais je trouve mon don. Et je le mets en pratique, je le mets en action. Et ensuite, je vais vraiment vivre que l'Esprit me scelle. Je vais être rassuré. Je vais être confiant. Je vais être pleinement conscient de mon besoin, de ma dépendance et de l'amour de Dieu pour moi. Et là, je vais vivre des choses profonde avec Dieu, peut-être en partageant ma foi avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, peut-être en pilant sur ma peur, pilant sur mon orgueil. Et là, je vais faire des pas en utilisant mes dons. Et Dieu, par l'Esprit, va me sanctifier, va me montrer, l'Esprit me sonde, l'Esprit me convainc, l'Esprit me motive. Et là, on tombe dans un petit cercle ici, là. Je m'accroche par les outils, l'Esprit me convainc quand je vais lire la parole de Dieu, l'Esprit me motive parce que je vais me sentir poussé à bouger, l'Esprit va me disposer à voir les choses de la parole de Dieu, et là ensuite, je vais m'accrocher par les outils, et là c'est un cercle parce que savez-vous quoi? Tous les jours, je manque mon coup. Mais je vais quand même faire confiance à Dieu. Et ensuite, l'Esprit produit du fruit, me donne un don, et là, je vais le mettre en action. Je vais grandir. L'Esprit va me préparer, va me montrer d'autres choses. Je retourne en haut. Vous voyez comment c'est bien fait. On dirait que ça a été écrit pour ça. Non, mais... Et vraiment, c'est comme ça. C'est une base très, 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 très simple. Mais c'est important de nous ancrer comme il faut. La parole de Dieu, c'est ce qui va vous permettre d'aller vraiment trouver, entendre et écouter l'Esprit-Saint vous parler et vous diriger. Alors que certains cherchent une manifestation intense, nous voulons être fidèles à l'enseignement de la parole. Alors que certains limitent l'Esprit, nous voulons lui laisser la place, dépendant de où nous sommes, dans quel type d'église, dans quel type je recherche. Je crois que c'est important qu'on s'ancre. Ce que je crois, ce que je recherche, est-ce que c'est la parole de Dieu qui m'enseigne ça? Ou est-ce que c'est des paroles? Est-ce que c'est une vidéo YouTube aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le AI? Je ne sais pas. Mais ce que je crois, est-ce que c'est ancré dans la parole de Dieu? Est-ce que j'ai été convaincu par l'Esprit Saint? Est-ce que je limite l'Esprit ou est-ce que je lui laisse la place dans ma vie? Est-ce que je lis la parole de Dieu et je dis maintenant, je vais faire ces choses? Dieu n'utilise pas la sagesse, il utilise l'Esprit Saint en nous. Parfois, c'est bon d'abandonner mon intelligence et ma sagesse humaine et de faire confiance à l'Esprit. Parfois, mon intelligence me dit, dis pas ça. Mais pourtant, je sais qu'il faut que je le dise. Mais ma crainte des hommes fait que je n'ai pas envie de le dire. Et parfois, ma crainte des hommes me dit, « Dis ça! » Et l'Esprit-Saint dit, « Non. » Comment je fais pour faire la différence? Est-ce que c'est ancré dans la parole de Dieu ou dans ma crainte, dans ma peur, dans mon insécurité? Et ça, c'est l'Esprit-Saint qui peut nous le montrer. Pourquoi des gens sont capables d'aller et d'annoncer l'Évangile, et là, il y a une réponse. Pourquoi moi, si je fais pareil, ça ne marchera pas? C'est l'Esprit-Saint, c'est les dons, c'est comment Dieu dirige chacun d'entre nous, et c'est l'ancrage dans la parole de Dieu. Faisons confiance à l'Éternel. Les outils que Dieu va utiliser pour nous diriger, la parole de Dieu, la prière et le jeûne, et afin de terminer ensemble, chapitre 2 de 1 Corinthiens, verset 12. « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Prenons conscience aujourd'hui que Dieu, par sa grâce, nous a donné le salut, la mort et la résurrection de son propre Fils. Nous a donné de faire de nous des fils et des filles, du Dieu Tout-Puissant, nous a adoptés dans sa maison, qu'il nous garde et nous scelle de toutes les attaques de l'ennemi, qu'il nous protège de tomber, qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, parce qu'avec la tentation, il donne aussi le moyen de s'en sortir. Est-ce que ça veut dire que je ne tomberai jamais? Non. Ça veut dire que Dieu est avec moi dans l'épreuve. Sa présence en nous. Réalisez-vous qu'à travers chacun d'entre nous, Dieu est présent par l'Esprit Saint et qu'il nous parle, qu'il nous dirige. Dieu utilise la prière, le jeûne, parce que Jésus a utilisé la prière et le jeûne. Dieu nous dirige, Dieu nous garde, Dieu nous rend sensibles à lui. parce que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Et je vous invite à lire le restant de 1 Corinthiens 2, qui nous parle comment que l'homme naturel comprend l'homme naturel. Pour comprendre Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour ton esprit. On te remercie pour ton œuvre complète à la croix. Seigneur, le péché en nous nous amène constamment à nier qui tu es, à nier ce que tu as fait en nous. L'homme naturel ne peut connaître et comprendre tes grâces. Seigneur, notre cœur crie vers toi. Notre désir, Seigneur, c'est que tu sois loué par nos vies. Notre désir, Seigneur, c'est que l'homme naturel se taise en nous et que ton esprit puisse rayonner et résonner, qu'on soit un témoignage puissant, Seigneur. L'unité qui nous est promise, Seigneur, se trouve dans ton esprit. Que tu sois, Seigneur, la réponse parfaite à nos vies, par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à toi, à faire confiance à ton Saint-Esprit, à t'aimer et à te glorifier dans nos vies. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Seigneur Jésus, prends soin de nous, dirige-nous et montre-nous, Seigneur, là où on a besoin de toi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble. Bénis ta parole en nous et que par ton Saint-Esprit, Seigneur, cette Église puisse avoir un puissant témoignage. Sauve, surprends-nous, Seigneur. À la gloire de ton nom, Jésus. Amen.